cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 31 janvier 1996.
Vous avez dit que le bonheur de l'homme consiste finalement dans l'amour envers l'autre. J'avais dit la première finalité, oui, un certain bonheur. Et non, dans l'exercice de l'intelligence, cherchant la vérité, même si celle-ci est condition sine qua non pour que l'amour soit le plus parfait possible, oui. Mais comment comprendre la parole d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, livre 1er, chapitre 6, verset 16. Ce bien de l'homme, connaît l'activité de l'âme selon la vertu ou l'excellence. Psyché, energeia, kai, areten, selon la plus excellente et la plus parfaite. Or, quelle est l'excellence la plus parfaite de l'âme humaine, sinon la sagesse? Tout à fait d'accord. Mais la sagesse, ce n'est pas la recherche de la vérité. La recherche de la vérité conduit à la sagesse. Et la sagesse implique la découverte de l'existence de Dieu. Or, nous respectons cette recherche métaphysique antérieure à la découverte de l'existence de Dieu. Mais la métaphysique existe comme science dans la recherche de ce qui est le toon éon, sans avoir découvert encore l'essence de Dieu. On peut y croire selon les traditions religieuses, mais la découverte de l'essence de Dieu est après. Et la personne, la recherche de la personne que nous faisons maintenant est entre ce qui achève la première partie de la philosophie première et cela nous ouvre à la théologie naturelle. La métaphysique devient sagesse en théologie naturelle. Ces questions-là ont été très discutées, je sais bien que c'est pas commode. Et Aristote, au fond, n'a pas besoin, et n'a pas, de fait, la même précision que nous devons avoir. Mais Aristote nous aide à montrer ce qu'est la philosophie. La métaphysique d'Aristote, avec le livre Lambda, et théologie. Et alors, c'est toutes les querelles qui ont eu lieu. Est-ce que la philosophie première, est-ce que la philosophie, la métaphysique, la philosophie première est-elle identique à la sagesse? Je crois qu'il faut respecter ce premier moment de la philosophie première, l'analyse de ce qui est en tant qu'il est. Et non pas tomber dans l'erreur d'Owens qui considère que ce qui est en tant qu'il est et l'être en acte, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. La recherche de ce qui est en tant qu'il est, c'est l'intelligence qui découvre dans les réalités qui existent et en elles-mêmes, ce qui est. Et ce qui est n'est pas Dieu, pour moi, en premier lieu. Quand vous affirmez le jugement d'existence, vous n'affirmez pas l'existence de Dieu. Oui, vous seriez dans un panthéisme absolu. Puisque j'existe, donc Dieu existe. Puisque que je suis Dieu. En découvrant votre je suis, ce n'est pas Dieu. C'est votre je suis, votre personne humaine. À ce niveau-là, on n'est pas encore en sagesse philosophique. La sagesse philosophique commence avec la découverte de l'être premier, cause de la création de tout ce qui existe en dehors de Dieu, donc de moi-même. Oui, donc distinguez bien ce que on appelle de la vérité, qui est toute la philosophie première, science, c'est la recherche de la vérité. Si j'essaie de découvrir ce que c'est que l'ousia, ce que c'est que l'énergeia, ce que c'est que l'entelekeia, si j'essaie de découvrir cela, c'est dans cette recherche de la vérité. Lorsque je découvre l'être premier, la nécessité de poser un être premier, et que j'essaie de contempler cet être premier, je suis en théologie naturelle. Je suis dans une sagesse. Alors, évidemment, à ce moment-là, cette contemplation de Dieu n'est plus la recherche de la vérité. Elle est soutenue par la recherche de la vérité, mais c'est bien plus, c'est la contemplation. N'identifions pas recherche de la vérité et contemplation. La contemplation, c'est la fin de la personne humaine. La recherche de la vérité est ce qui finalise mon intelligence comme intelligence, voyez. Pas la même chose. Alors je continue pour qu'on voit bien. Or, quelle est l'excellence la plus parfaite de l'âme humaine, sinon la sagesse. La sagesse qui vise à contempler, pas qui vise, qui contemple la sagesse. Oui, dans la sagesse, la lumière et l'amour sont inséparables, c'est sûr. Mais, vous avez dit aussi que la contemplation est plutôt du côté de la lumière, oui. Pas plutôt, elle implique la lumière. Du côté de l'exercice de l'intelligence. Mais une intelligence parfaite qui a atteint l'existence de Dieu. Oui, je ne contemple pas mon ami. Ça peut arriver sans qu'on contemple son ami, mais ce n'est pas une vraie contemplation. Oui. C'est une... Je me souviens, j'étais au seul choix. Il y avait un bon frère convaincu, il n'est pas resté du reste. Ça ne m'étonne pas. Mais tous les matins, à l'oraison, il se mettait toujours à la même place. Comme je me chargeais, je m'occupais des frères convaincus, je m'étais bien obligé de faire la remarque et lui poser la question, mais pourquoi tu te mets là? Il m'a dit, ah, parce que là, je suis en face de ce petit novice que je contemple. Il m'aimait follement. Alors il l'a contemplé, son oraison du matin, c'était la contemplation de ce novice. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait ça l'oraison. Alors, ne confondons pas l'amour d'amitié et la contemplation. Ne confondons pas la recherche de la vérité et la sagesse. Mais, or, quand nous essayons ici, dans ce cours de cette année, nous essayons de comprendre ce premier moment de la découverte de la personne humaine. Et je fais cette découverte de la personne humaine avant d'avoir découvert l'existence de Dieu. Il y a un second moment qu'on fera au terme. Il y a un second moment de la découverte de la personne humaine plus parfaite. Lorsque, ayant découvert l'existence de Dieu, je contemple Dieu. Quand nous essayons de voir ce qu'est la contemplation de la bonté de Dieu, ce qu'est la contemplation de l'infini de Dieu, je suis dans une vision de contemplation, de théologie naturelle et de sagesse. Mais je ne peux pas contempler Dieu sans l'avoir découvert avant. Je ne peux pas. Oui, deux jours, ce que Denis donne quand il parle justement et que saint Thomas reprend la structure de la sagesse fait qu'on atteint Dieu per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae. Ça, il faut connaître cela parce que saint Thomas le reprend à Denis. Et c'est très fort, mais vous voyez, c'est la structure de la contemplation de Dieu. Je ne peux pas contempler Dieu sans l'avoir découvert. Puisque je n'ai pas une expérience immédiate de Dieu au plan philosophique. Dans la foi, je peux télescoper le per modum causalitatis d'une certaine manière. Parce que j'adhère immédiatement à Dieu, mais mon intelligence humaine, livrée à elle-même, ne peut contempler Dieu que si elle l'a découvert. Per modum causalitatis. Le per modum causalitatis me permet de poser l'existence de Dieu. Mais pour le contempler, il faut comparer cette existence de l'être premier et de toutes les créatures et surtout de moi-même, de moi je suis, et voir que l'être premier est autre, totalement autre que moi. J'essaie de découvrir le je suis de Dieu. Per modum negationis. Dans le per modum negationis apparaît le per modum eminentiae. Alors, puisque nous voyons ça, notons tout de suite, c'est intéressant, que de fait, dans la perspective thomiste, il y a deux courants qui diffèrent selon l'ordre de ces trois aspects, per modum causalitatis, per modum negationis, per modum eminentiae. Et quelqu'un comme le père Sertilange se met du côté de cette tradition qui met cet ordre-là, per modum causalitatis, là, tout le monde est d'accord, c'est fondamental. Per modum eminentiae, et per modum negationis. Donc on termine sur le per modum negationis. Parce qu'il y a certains textes de Thomas d'Aquin qu'on peut interpréter comme ça, qui disent que lorsqu'il s'agit de la connaissance de Dieu, la plus grande certitude, c'est le per modum negationis. Vous voyez, c'est très intéressant même ça. Il ne dit pas la plus grande vérité, mais la plus grande certitude. Si vous mettez du côté de la certitude, la négation passe avant. Descartes. Descartes ne cherche pas la vérité. Et à partir de Descartes, on ne cherche plus la vérité. On cherche la certitude. Il ne faut pas l'oublier. Alors à ce moment-là, évidemment, je comprends très bien la certitude, la plus grande certitude à l'égard de Dieu, c'est le perpétuo negationis. En Dieu, il n'y a pas de composition. Ça, j'en suis absolument certain. Tandis que je dis, Dieu est tout à fait simple. Vous voyez, l'émergence de l'éminence de Dieu au-delà de la négation, c'est la vérité. Mais j'en ai une certitude moins grande. Parce que je n'ai pas l'évidence immédiate. Je ne peux que chercher à le contempler. Ma contemplation, dans ma contemplation, je ne cherche pas la plus grande certitude. C'est pas ça qui m'intéresse en premier lieu. C'est pas la certitude. C'est la vérité. Vous savez, il y a deux catégories d'esprits philosophiques. À ce point de vue-là, Descartes est vraiment celui qui fait un partage des eaux. Des quantités de philosophes qui se disent philosophes, en réalité, ne sont pas des philosophes, c'est des critiques. Dans la critique, la certitude est première. Je suis absolument certain de ça. D'où le primat des connaissances mathématiques. Ce sont les connaissances mathématiques qui sont les plus certaines. Et quand Descartes cherche à prouver l'existence de Dieu, per modum geometricum, c'est pour avoir la plus grande certitude. Alors on est très heureux d'avoir la plus grande certitude. C'est quelqu'un qui cherche la certitude, on ne peut jamais lui permettre d'avancer parce qu'il est assis dans sa certitude. Et dans un bon fauteuil, oui, on est bien assis, hein, c'est absolument certain. Mais qu'est-ce que vous contemplez? Votre négation. Ça ne m'intéresse pas. Si je nie, c'est pour affirmer. Si je me sers de la négation, c'est pour que l'affirmation soit plus nette. Ça, c'est la vie de l'intelligence. Tandis que mettre la négation en dernier lieu, alors c'est pour affirmer la transcendance dans la plus grande certitude. Mais c'est la certitude que je cherche, ce n'est pas la contemplation. Mais là, continuons cette recherche que nous faisons. Donc, revenons toujours et comprenons bien à quel niveau nous sommes. Nous ne sommes pas encore au niveau de la sagesse. On est au niveau de la réflexion philosophique, de la science de ce qui est en tant qu'il est. L'aspect épistémé. Il y a une science de l'être en tant qu'être. Ce que certains aujourd'hui aux banques n'ont pas compris ça, des quantités n'ont pas compris ça. C'est pas commun de comprendre qu'il y a une science de l'être en tant qu'être. Pourtant, saint Thomas le dit expressément, hein, et Aristote aussi. Il y a une science de l'être en tant qu'être. Et cette science de l'être en tant qu'être, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui va très loin, ça. Recherche, découverte de la substance, découverte de l'être en acte. Et la découverte de la finalité, c'est là où je la fais. Je la fais du côté scientifique. Et grâce à ça, je peux entrer en sagesse. C'est par la cause des causes, la finalité, que j'entre dans la sagesse. Mais l'entrée en sagesse, alors, dépasse tout ce qui a été dit avant, c'est bien évident. Contempler Dieu, c'est plus que d'aimer le prochain. Non, là, je suis tout à fait d'accord. Mais contempler Dieu n'est pas, ne se ramène pas à la recherche de la vérité. C'est déjà la découverte de la vérité. Alors que de fait, la recherche de la vérité dure toujours. Même quand j'ai découvert l'existence de Dieu, je continue de chercher. Mais la recherche n'est plus par rapport à l'affirmation de l'être premier. La recherche est à l'égard de la précision, de la pénétration de ma connaissance d'être premier. C'est très différent. Oui. Il y a deux moments de la recherche, du reste, c'est tout le temps comme ça. Quand vous faites une petite dissertation, quand vous faites une grosse dissertation, une thèse, vous cherchez. Bon, vous avez une question et vous avez découvert. Ah oui, c'est bien, c'est ça. On découvre la joie, la découverte. Si vous êtes intelligent, ayant découvert, vous revenez sur votre enquête pour préciser davantage. Parce que vous savez que l'intelligence pénètre toujours plus avant dans ce qu'elle a découvert. Et quand on sait que le terme de ma recherche, c'est la vérité, c'est-à-dire Dieu, vérité, je sais que cette connaissance de Dieu, je peux l'approfondir indéfiniment. Et je n'arriverai au terme, ça je ne peux pas l'affirmer au point de vue philosophique, que lorsque j'aurai la vision béatifique. Là, il y aura un repos. Mais votre contemplation philosophique, métaphysique sur la terre n'est pas un repos. C'est un petit moment. Mais ce n'est pas un repos. Parce que nous cherchons tout le temps. Que nous voulons aller toujours plus loin. Oui. C'est là, vous voyez, la différence entre la contemplation et la dialectique. La dialectique met toujours l'accent sur la recherche et non pas sur la détermination et l'objet. Tandis que la contemplation, on contemple une réalité. On contemple celui que j'ai découvert qui est Dieu. Mais cela ne supprime pas la recherche. Puisque ça demande un tel effort intellectuel de découvrir l'essence de Dieu. Donc il y a toujours un devenir. Je ne peux jamais, au point de vue philosophique, dire « maintenant c'est assez, j'ai tout découvert ». Non. Ça prouve qu'on n'est pas philosophe si on dit ça. On retombe dans l'université. Vous pouvez dire d'une certaine manière quand vous cherchez une notion univoque que vous l'avez découvert, une notion générique, animale. Bon, faites pas tellement de progrès pour découvrir ce que c'est de l'animal. Tandis que si vous cherchez l'être en tant qu'être, la vérité en tant que vérité, la bonté en tant que bonté, là, vous savez que vous pouvez chercher indéfiniment. Et c'est pour ça que l'éthique, distincte de la métaphysique, est éclairée par la métaphysique. Et dans l'éthique, si de fait vous êtes en même temps métaphysicien, vous savez que votre éthique peut toujours, toujours s'approfondir. Oui. C'est ça la chose merveilleuse de la philo. C'est que vous n'avez jamais la possibilité de dire « Ah, j'ai tout saisi, j'ai tout compris. » Non. Plus vous avancez, plus vous voyez combien votre intelligence, notre intelligence humaine est tabula rasa. Elle est une potentialité radicale, analogue à la potentialité de la matière. Analogue, c'est-à-dire clair dans le je suis, mon autonomie dans l'ordre de l'être, et mon originalité. L'autonomie, c'est toujours l'originalité. Vous voyez dans quel sens ? C'est pas la même chose. Mais l'originalité, c'est découvrir par de l'autonomie. Vous n'êtes pas original dans votre dépendance. Ça, c'est sûr. Puisque votre dépendance, c'est pas vous. C'est regarder le premier qui est devant vous. Mais c'est pour ça que les processions, c'est très bien, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Parce que vous avez toujours quelqu'un devant vous. Vous savez, c'est une... on est relatif. Donc, l'autonomie, la recherche de la vérité, ça, on n'insistera jamais suffisamment assez aujourd'hui sur la recherche de la vérité. Vous voyez, je n'ai pas assez à ce moment-là montré le danger de transformer cette recherche de la vérité en une recherche de certitude. Parce que c'est une caricature de la recherche de la vérité. Ce serait intéressant du reste. Hein. Et ça compléterait. Un petit appendice, les caricatures de la recherche de la vérité. Autour des temps, la première caricature, c'est la recherche de la certitude. Ça, c'est évident. C'est la première caricature. Mais il y en a d'autres dans la recherche de la vérité. Il y a d'autres caricatures. Mais quand vous êtes dans l'attitude de celui qui, dans la recherche de la vérité, a ce scrupule, il y a des gens scrupuleux intellectuellement. Alors, à la place de chercher la vérité, ils cherchent la manière dont ils atteignent la vérité. Bon, à la place de descendre l'escalier, ils cherchent la rampe. La manière dont on descend avec sûreté. Alors ça, c'est toute la philologie moderne. On cherche le vécu intellectuel. Le vécu intellectuel n'est jamais la vérité. Mais évidemment, c'est une condition sine qua non. Si vous ne pensez pas, vous ne chercherez pas la vérité. Si vous n'avez pas certaines connaissances, vous ne découvrirez jamais la vérité. Mais c'est l'attitude critique. Alors, c'est pas la même chose que de chercher la, que de chercher la certitude. Vous voyez, c'est plus noble. C'est, je crois, l'attitude des néo-platoniciens. Qui sont plus attentifs à la manière de connaître la vérité que de connaître le contenu de la vérité. Et c'est l'aspect subjectif, et non plus objectif, l'aspect subjectif qui domine la manière dont je peux atteindre la vérité. Ce sont pour nous les deux grandes caricatures, ou si vous voulez, les deux manières dont la recherche de la vérité n'a plus sa pureté. Elle s'encombre de deux aspects subjectifs. L'aspect subjectif de la manière, la voie par laquelle j'atteins la vérité. Et le permodum negationis l'emporte sur le permodum eminentiae. C'est par la négation successive que je vais. Mais je ne cherche plus l'éminence. Je suis trop pris, trop séduit par la négation. Et puis la certitude. Ou l'intelligence, ou le philosophe qui recherche la vérité atteint en premier lieu le bonheur de l'homme. Un certain bonheur, c'est dans l'amour d'amitié. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la recherche de la vérité est indispensable pour que l'amour d'amitié touche la personne de l'autre. l'amour d'amitié n'atteint pas le « je suis » de l'autre, donc la personne, mon amour d'amitié reste très fort autour des apparences. Je suis un peu passionné. Je crois aimer vraiment dans un don de moi-même, et en réalité, non. Je cherche l'autre pour moi. La jouissance, la joie, qui n'est pas nécessairement mauvaise, hein. Ça me détend. Ah, c'est extraordinaire comme tu me donnes la paix. Genre. Ah, c'est extraordinaire, ça me donne une paix merveilleuse. Il suffit que tu sois là pour que tout change. Je vois tout à travers des lunettes roses. Tout devient merveilleux. Il n'y a plus de problème. Oui. Alors on dit, mais c'est merveilleux ça. Voilà. La plus grande amitié. Mais non, c'est pas la plus grande amitié. Parce que c'est encore une recherche de l'autre pour qu'il me donne sa paix. Ce n'est pas l'amour de l'autre pour lui-même. Vous voyez, quand je dis ça, comprenons bien, la véritable amitié, c'est aimer l'autre pour lui-même. Mais aimer l'autre pour lui-même va avoir ce privilège merveilleux de faire que l'autre va me donner la joie, la paix, il y aura tout un rayonnement. Alors, si on s'arrête à ce rayonnement, ça devient un obstacle à la croissance de l'amour d'amitié. Et c'est exactement comme lorsque, à la place de contempler, je m'arrête à ma manière de connaître. L'aspect critique. La critique est indispensable. Elle peut être rivale de la contemplation. Lorsque je m'intéresse plus à mon cheminement qu'à la découverte de la vérité, et à la vérité elle-même. Alors là, je m'arrête sur moi. Et ceci, au point de vue affectif, est encore beaucoup plus net. Lorsqu'à la place d'aimer l'autre, pour lui-même, en ce qu'il a de plus lui-même. Je suis heureux de sa présence qui me pacifie. C'est très très bien que sa présence me pacifie, c'est pas du tout mauvais. Mais si je le vois comme une conséquence de mon amour d'amitié, très bien, c'est une conséquence. Je ne m'y arrête pas. C'est pas ça en définitive que je cherche. C'est la présence. C'est l'amour de l'autre. Pour l'autre. C'est ce que Aristote dit lorsque, étudiant la philia, l'amour d'amitié, dit l'amour d'amitié parfaite, honnête. C'est le mot honnête, qui, en latin et en grec, et beaucoup plus qu'en français. En français, honnête, c'est resté au niveau très moral. Alors que, tel que l'emploie Aristote et Thomas d'Aquin, c'est beaucoup plus la perfection. C'est pas la même chose, ça va plus loin. Il dit que cet amour d'amitié qui regarde l'autre pour lui-même, cet amour d'amitié implique toutes les perfections de l'amour de jouissance, de joie et de l'amour utile. Et ça, c'est très vrai. Quand j'aime vraiment quelqu'un pour lui-même, c'est lui qui me donne les plus grandes joies, la plus grande paix. heureux qu'il soit là. Et quand il est là, toutes les inquiétudes, toutes les ennuis habituels, les angoisses disparaissent. C'est merveilleux. Il est là. Je l'aime. Et il m'aime. Oui. Donc, il me donne la plus grande joie. Rayonnement. Et il peut être d'une très grande utilité. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas les demander à n'importe qui. Et puisqu'il dirait, je l'utilise. L'ami ne dira jamais, tu m'utilises. Parce que le service qu'on donnera à l'ami sera en dépendance directe de cet amour que j'ai pour lui, qui est sorti de moi. Si vraiment, dans l'amour d'amitié, dans cet amour spirituel, j'aime l'autre pour lui, si c'est vrai que je l'aime pour lui, qu'il me demande des services que je peux faire, mais j'en suis très heureux, parce que c'est une manière d'incarner cet amour que j'ai pour lui. Et je n'aurai jamais l'idée de dire « tu m'utilises ». Quelqu'un qui dit ça, ça prouve qu'il n'a pas compris. « Ah, tu m'utilises vraiment ? Oui, vraiment. Tu oublies que j'ai aussi beaucoup de travail. » Non. Quand l'ami demande quelque chose, tout le travail habituel disparaît. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est vrai. L'amour d'amitié, quand il atteint vraiment la personne, que j'aime la personne pour elle-même, dans ce cas-là, de plus elle-même, et donc de plus parfait, de plus grand, de plus noble, il y a un effet immédiat, c'est la joie que j'ai de le retrouver. Et cette joie peut être telle que toutes les petites souffrances, que toutes les petites difficultés, que toutes les petites angoisses disparaissent. C'est pour ça que c'est si important, cet amour d'amitié, quand il est vrai. Parce que si un jour, je suis angoissé, seul l'ami qui était l'ami avant que je sois angoissé, ce sera le seul qui pourra me faire sortir de l'angoisse. De façon très, très, très extraordinaire, ça. Pas tout de suite, peut-être, s'il est très angoissé, mais au bout d'un certain moment. La présence. Oui. C'est dans l'amour d'amitié que je découvre ce que c'est que la présence de l'autre. Et que je découvre ce qu'est l'autre, il ne faut pas l'oublier. Si Lévinas cherche toujours la connaissance de l'autre, c'est parce qu'il ne l'a pas abordé par l'amour d'amitié. Parce qu'au point de vue connaissance, c'est très vrai qu'au point de vue connaissance, regarder le « je suis » de l'autre, c'est regarder un mur. Le « je suis de l'autre » sera toujours pour moi quelque chose d'énigmatique. C'est ça le mur. Le symbole du mur, au point de vue philosophique, au point de vue moderne, c'est l'énigme. Quelque chose que je pénètre pas, quelque chose qui m'arrête. Et c'est vrai que le « je suis de l'autre » m'arrête. Je ne connais pas. Point de vue connaissance. Ce qui est extrêmement curieux, c'est que quand j'aime l'autre, de cet amour spirituel, d'amitié, l'autre n'est plus l'autre dans son extériorité en tant qu'énigme. en tant que celui qui peut m'attirer, mais que je ne connais pas parfaitement. Je l'aime. Mon amour extatique pénètre et regarde l'autre de l'intérieur. Je ne le vois plus de l'extérieur, je le regarde de l'intérieur. Et donc, par l'amour spirituel, j'ai une connaissance de l'autre. Connaissance affective, c'est sûr. Donc, jamais très précise. Ce n'est pas le fruit d'une analyse. Le fruit d'une analyse présuppose toujours des inductions et la saisie de principes propres. Alors c'est précis. Tandis que la connaissance affective que j'ai de l'autre est une connaissance qui ne tolère pas l'analyse. Ah, l'amour a ses exigences propres et des exigences terribles. Analyser la vie, c'est le tuer. C'est tuer la vie. Parce que c'est tuer l'amour que j'ai pour lui. Ce n'est plus la découverte de l'autre tel qu'il est et tel qu'il se donne à voir. Oui, c'est dans ce sens-là que l'amour de l'autre va plus loin que la connaissance. C'est la parole de Pascal qui est juste. L'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. La raison, c'est l'analyse. Tant qu'on n'a pas découvert ça, au fond, on est toujours malheureux dans l'amour, l'amitié. Parce qu'on voudrait que l'autre, en face de moi, puisse s'analyser. Alors c'est pas ça du tout l'amour, c'est l'autre tel qu'il est. Ça exige, vous voyez, l'acceptation que l'amour de l'autre va plus loin que la connaissance que j'aurai de lui. Par l'analyse. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas demander à un psychologue, vous connaissez cette personne, ah j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en dites vous, en tant que psychologue. Si vous faites ça, d'abord, j'allais presque dire, c'est une faute par rapport à l'amitié. Ah, c'est pas commode, ça, vous savez. Parce qu'on va dire, oh, mais c'est la prudence. Je veux savoir, je veux être sûr. Je veux être sûr que je n'aime pas un brigand. Je veux être sûr que j'aime quelqu'un d'honnête. Je veux être sûr de ses intentions. Ah, vous voyez, la certitude. Tout de suite, c'est la certitude qui va l'emporter. Et la certitude tue l'amour. C'est ça qui est terrible. Descartes tue l'amour. Il n'y a plus de véritable amour avec Descartes. Parce qu'il veut la certitude. Il n'y a pas d'amour dans la connaissance mathématique. Il n'y a pas d'amour dans la connaissance psychologique. Parce que vous analysez tout et vous voulez tout analyser. Ce qui est merveilleux dans la philosophie, c'est de comprendre que la cause finale, c'est la cause des causes. Si elle est la cause des causes, elle a une priorité sur toute analyse. Et que l'amour seul se justifie comme amour. Là, vous voyez la parole de Saint Bernard, reprise par Thomas d'Aquin. L'amour n'a pas d'autres mesures que l'amour. Tandis que si vous analysez, vous mettez une mesure au-delà de votre amour. Et vous tuez par le fait même. ce qu'il y a d'unique dans cet amour personnel. C'est ça l'exigence de l'amour d'amitié. C'est qu'il y a cette confiance que vous faites en l'autre et vous acceptez que cela se réalise non pas grâce à une analyse psychologique ou philosophique ou éthique, mais que ça se réalise d'une manière beaucoup plus profonde dans ce lien personnel et dans cette connaissance affective et aimante. C'est quelque chose qui va bien plus loin, beaucoup plus loin. Mais alors, je crois que c'est ça qui est important à saisir. L'amour d'amitié, mais donc en présence de l'autre, d'une personne autre que moi, de ce « je suis autre que le mien » et qui me dépasse parce qu'il est justement autre que le mien. Et c'est dans ce sens-là que la bonté de la vie peut me finaliser. Mais vous comprenez bien, et alors là, il faut toujours se rappeler cette petite analyse que saint Thomas fait par rapport à la bonté. Il dit que la bonté implique, la bonté d'une personne implique l'exister, ses qualités, et que cette personne soit finalisée. Une personne ne peut être pour moi mon bien que si elle-même est finalisée. Alors, il y a la réciprocité. Si je finalise l'ami, l'ami peut me finaliser. Vous voyez, il faut aller jusque-là pour comprendre ce qu'est la réciprocité. Et comment l'amour d'amitié réclame la réciprocité et comprendre ce qu'est cette réciprocité. Cette réciprocité, elle est dans l'amour. J'aime la personne humaine, l'ami, je l'aime pour lui-même, dans ce qu'il a de meilleur. Et ce qu'il a de meilleur, c'est toujours quelque chose qui me dépasse. Mais nous avions souligné la dernière fois, et c'est bon d'y revenir un instant dans cette lumière, que je ne peux pas être pour moi-même ma finalité. Quand quelqu'un dit « moi, je découvre la finalité en m'aimant », c'est une fausse finalité. Vous comprenez pourquoi? Puisque le bien seul entend qu'il est voulu pour lui-même, peut-être ma fin. Ma bonté à moi, elle reste toujours limitée à moi. Il n'y a pas dans ma bonté quelque chose qui me dépasse. Et c'est vrai que l'ami me fait découvrir qu'il y a en moi quelque chose qui le dépasse lui. C'est l'amour que j'ai pour lui. Il y a quelque chose qui le dépasse et qui lui permet d'être finalisé. C'est cet amour de l'autre, de l'ami, pour moi-même. Et c'est cela qui me permet de découvrir en lui, je dis bien en lui, quelque chose de plus grand que moi. qui me finalise. Vous ne pouvez jamais découvrir ça en vous. Puisque ce qu'il y a de plus grand en vous, c'est de vous dépasser. Donc c'est pas vous. Et vous vous dépassez grâce à un autre que vous aimez. Si vous vous aimez, mais c'est pas un véritable amour, puisque c'est la joie, la jouissance de trouver enfin quelqu'un d'intelligent. Vous pouvez très bien avoir conscience que vous êtes plus intelligent que votre ami, mais c'est pas ça que vous aimez en lui, c'est sa capacité d'aimer, c'est cette capacité d'extase, de se dépasser. Or, en vous, la seule chose que vous pouvez découvrir avec certitude, c'est vos qualités. Quand quelqu'un dit « j'ai cherché à travers le monde entier », je n'ai jamais trouvé quelqu'un de plus parfait que moi. Et vous dites ça très humblement, tu vois. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un de plus parfait que moi. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un de plus intelligent que moi. Alors, c'est moi. Il vaut mieux m'aimer que d'aimer des êtres inférieurs à moi. Et là, vous êtes tout à fait d'accord. C'est évident. Si tous les êtres que vous regardez sont inférieurs à vous, comment voulez-vous les aimer ? Vous êtes la mesure de l'autre. Et si vous êtes la mesure de l'autre, vous ne connaissez pas l'autre en tant qu'autre. Vous le ramenez à vous. Celui qui dit ça, vous allez dire, c'est un orgueil fou. Oui, en réalité, c'est un orgueil fou. Parce qu'il n'a jamais su regarder un autre. Et il a toujours regardé en référence avec vous. Or, regarder tout le temps un autre en référence avec moi, c'est toujours me placer au-delà de l'autre. Et c'est l'obstacle le plus terrible à l'amour d'amitié. C'est l'orgueil. Alors, vous voyez, quand vous affirmez que vous-même, vous ne pouvez pas être fin à vous-même, vous dénoncez l'erreur terrible de l'orgueil. Et vous dénoncez la tentation permanente, il faut bien se le dire, la tentation permanente de s'aimer plus que l'autre. Et s'aimer plus que l'autre, ce n'est plus aimer l'autre. Et donc, c'est la mort de l'amour. Et c'est vous-même qui êtes là. Alors, ce qui serait intéressant à dépister, c'est de voir comment l'orgueil peut naître et devenir cet obstacle le plus terrible à l'amour d'amitié.